Bonjour et bienvenue sur cette première interview du blog 3H Coaching. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Curnier. Alors, bonjour Jérôme.
Bonjour Rémi.
Alors Jérôme, pourquoi j'ai voulu faire venir Jérôme? C'est pour vous parler de coaching. C'est un des sujets qui me passionne que je voudrais aborder avec vous dans sur ce blog. Et Jérôme est coach professionnel depuis de nombreuses années. Il va nous en parler. Jérôme a aussi ouvert une école de coaching qui s'appelle l'Institut Maïotis. Il est formateur et superviseur de coach. Alors Jérôme, est-ce que tu peux te présenter pour les lecteurs du blog?
Bonjour Rémi, Jérôme Curnier. Donc, ça fait une douzaine d'années que je fais ce métier, effectivement, d'accompagnement en entreprise, plutôt en entreprise que dans le champ privé, dans ces trois postures que sont coach, donc accompagnant, mais aussi enseignant, c'est-à-dire que j'enseigne ce métier de l'accompagnement individuel de l'équipe et l'accompagnement des organisations, et puis aussi dans une posture de supervision, c'est-à-dire j'accompagne des coachs commençants et moins commençants dans ce métier, pour les aider à la fois à professionnaliser leurs gestes, finir cette professionnalisation, et puis valider un certain nombre d'options qu'ils prennent lorsque ils accompagnent un manager, lorsqu'ils accompagnent une équipe ou une organisation. Voilà.
D'accord, merci. Alors le terme, le mot coaching peut revêtir plusieurs aspects. On entend parler de coaching sportif. D'ailleurs, ça vient à l'origine du monde du sport, le coach. Après, on peut voir à la télévision qu'il y a des émissions qui parlent de coaching, coaching en relooking, coaching décoration. Et puis, il y a aussi les coachs en entreprise qui interviennent pour accompagner les managers et les équipes. Donc, pour toi, comment tu définirais le coaching?
Alors, dans un premier temps, je voudrais juste mettre un peu clarifié le fait que ce mot est mis un peu à toutes les sauces. Traduit surtout, je pense, une réalité humaine qui est que la personne a besoin de parler de ce qu'elle fait. Elle a besoin de parler de ce qu'elle aime, elle a besoin de parler de ce qui fait, de ce qui est structurant dans sa vie. Donc, quand on parle effectivement de coaching en relooking, j'allais dire, quand vous allez chez le coiffeur, vous demandez à la personne qui vous coiffe d'avoir un regard bienveillant sur la façon dont vous allez effectivement être coiffé. Vous lui demandez aussi qu'elle vous fasse des propositions. Parfois, vous vous lâchez et vous dites, bah, coiffez-moi comme ça vous donne, comme ça vous plaît. Donc, le terme coaching est effectivement utilisé dans à peu près tous les domaines. C'est un peu dommage, mais ce que moi j'appelle le coaching et ce qu'on appelle le coaching professionnel, accompagnement d'une personne ou d'une équipe qui se trouve plutôt dans une situation professionnelle, mais ça peut être aussi une situation personnelle, mais c'est plus professionnel pour globalement lui poser des questions, l'aider à clarifier son positionnement de ce qu'elle désire pour trouver ce qu'on a l'habitude de dire, trouver ses solutions. Qui dit solution dit qu'il y a problème ou difficulté et développer ses compétences. Alors, il n'y a pas nécessairement un problème dans le coaching. Il y a surtout, c'est surtout l'expression d'un besoin. C'est-à-dire, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui soit un professionnel de la relation et qui sait éviter les projections, les conseils, enfin, toutes ces choses-là que nos amis, que notre famille ou même que nos collègues ne savent pas nécessairement faire. C'est pas, ne savent pas. C'est qu'ils sont dans une position éventuellement en où toujours la personne qui essaye d'expliciter ses idées va se dire, bon, j'entends bien ce qu'elle me dit, mais est-ce qu'elle me donne un conseil et est-ce que je peux complètement ouvrir mon cœur à ce qui se passe en moi, etc. Bon. Et donc, pour moi, le coaching, c'est l'acte de faire appel à un professionnel, d'abord, hein, un professionnel de la relation d'aide, on va dire. Alors, c'est sûr que quand on parle de coaching de vie, on demande à quelqu'un de venir nous aider dans le domaine privé plutôt. Et les gens sont souvent dans une logique où ils ont pas envie de faire un travail qu'on va appeler thérapeutique, de retour sur soi. Ils ont plus envie d'être aidés dans la projection d'eux-mêmes, dans le fait de clarifier leur position ou simplement parler. Voilà. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que le terme coaching touche à peu près tous les domaines. C'est pas très heureux pour la profession, mais en même temps, je crois qu'il faut avoir une très grande bienveillance dans le fait que ça traduit un besoin, quoi. Voilà. Et dans un monde où finalement les choses sont extrêmement complexes, avec des interactions multidimensionnelles, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, la conscience des difficultés de la mondialisation, etc. Tous ces facteurs font que la personne est sollicitée en permanence et que du coup, elle ne sait plus très très bien où intérieurement elle habite. Elle varie ou elle hésite entre tout rejeter, tout prendre. Et en clair, l'espace de coaching devient un lieu très très investi par à peu près toutes les populations, justement pour clarifier ce qui les habite, hein, pour faire simple. Alors, c'est vrai que le coaching dans le champ professionnel vise aussi le développement de la personne, qu'on va appeler un développement durable et global, c'est-à-dire qui prend toute la personne. Alors, le terme coaching, maintenant, est un terme anglais. Moi, je préfère parler d'accompagnement, hein, accompagnement individuel et managérial, accompagnement de l'équipe et de comité de direction, et puis accompagnement de l'organisation en tant que structure qui réunit des hommes pour arriver à atteindre un objectif, une finalité, produire, donner du travail aux gens, etc. Voilà.
D'accord, merci. Oui, on peut voir qu'il n'y a pas une seule définition du coaching.
Non.
Et c'est un terme qui est employé dans beaucoup de secteurs. Moi, ce que je retiens de ce que tu nous en dis, c'est le coaching, voilà, c'est l'accompagnement d'une personne pour répondre à son besoin, à un besoin qu'elle peut avoir. Et le coach se positionne en tant qu'accompagnant.
Oui, absolument. Et donc, cette personne se positionne en tant qu'accompagnant. Donc ça, on pourrait dire que le coaching est comme un champ d'intervention auprès des personnes, auprès des équipes, auprès de l'organisation. Mais c'est aussi, dans la profession, on dit aussi que le coaching, c'est une espèce de philosophie, quoi. C'est toujours considérer la personne à la fois comme une personne déjà réalisée, elle a déjà fait beaucoup de choses, elle prend conscience de qui elle est, etc. Mais c'est finalement une philosophie où on considère que la personne, et on va utiliser cette terminologie en psychologie humaniste, il y a un prince à l'intérieur de nous. C'est-à-dire il y a une partie inconditionnellement positive qui est souvent recouverte par les difficultés de la vie, les difficultés du tempérament, etc. Et donc, du coup, le coach va se positionner dans une certaine attitude vis-à-vis de la personne qu'elle accompagne. À savoir, il va le considérer comme une personne pleine de ressources, une personne désirante, une personne qui a des besoins, une personne qui a un certain degré de créativité, une personne qui est un être de relation. Hein. Ces cinq caractéristiques, que ce soit désir, besoin, ressources, créativité et relation, sont les éléments constitutifs de ce que un coach va utiliser hein, chez la personne. Voilà. Et donc, du coup, le coach, lui, va développer des comportements de professionnel, d'abord d'écoute, mais aussi d'accompagnement, qui facilite en fait un processus de transformation de la personne. Voilà. Alors, on va aussi pouvoir dire que le coaching touche différentes dimensions de l'homme, à la fois la dimension personnelle, qui je suis, ce que j'aime faire, etc. mais beaucoup la dimension professionnelle, c'est-à-dire la dimension métier. J'ai un métier, j'ai une expertise. On va aussi toucher la dimension managériale, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la fonction. Quelle est ma fonction? Si je suis, par exemple, manager, c'est une fonction, c'est pas nécessairement un métier. Hein, c'est différent. Et donc souvent, des gens qui ont une expertise, qui ont développé une expertise particulière, du fait même de cette expertise, deviennent souvent managers, c'est-à-dire qu'ils deviennent responsables d'une équipe. Et ils sont pas forcément très au clair avec le fonctionnement de l'équipe quand ils sont patrons. Ils ont tous plus ou moins participé à la vie d'une équipe, eux. Mais quand ils deviennent managers, ils deviennent responsables, ben, ils sont pas toujours très très conscients de ce qui se joue dans la tête des gens. Ils le pressentent, mais ils ont besoin d'un, on pourrait dire, de carte du territoire, d'un appareil théorique pour penser le réel, pour être rassurés, pour savoir si ce qu'ils vivent, c'est normal. Bon. Alors, la nature est bien faite, donc la plupart du temps, ces problématiques-là se résolvent d'elles-mêmes, à savoir que les personnes se débrouillent très très bien toutes seules, hein, heureusement. Mais de temps en temps, il y a trop de facteurs, et la personne dit, bon, bah, ça coince ici, je comprends pas pourquoi j'ai une difficulté avec telle personne, etc. Donc, du coup, au-delà même de la dimension managériale, hein, après la dimension personnelle et professionnelle et managériale, il y a aussi la dimension organisationnelle. C'est-à-dire, j'appartiens à quelle entreprise et du coup, comment j'intègre la culture de cette entreprise, comment j'y fais mon trou, qu'est-ce que je veux utiliser comme ressources de cette entreprise pour évoluer. Voilà. Donc, c'est ces quatre dimensions, hein, qui sont prises dans le coaching personnel, professionnel, managérial et organisationnel.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler de situations concrètes qui peuvent arriver à une personne, un particulier ou un manager
Oui,
ou une équipe
bien sûr.
qui fait qu'on fait appel à un coach?
Oui. Alors, moi, je ne fais pas de coaching de particulier. J'en fais un ou deux, je dirais un ou deux ou trois dans l'année, mais guère plus, pour une raison simple. C'est que la problématique de vie personnelle s'approche assez rapidement de dimensions thérapeutiques. Et on peut très très bien aller dans cette dimension-là, mais c'est pas moi le choix que j'ai fait. J'ai plus fait le choix d'accompagner des managers et des équipes dans l'entreprise. Alors, avant de parler de dossiers spécifiques ou de cas particuliers, je voudrais juste situer finalement les trois, pour moi, grands chantiers qu'on traite quand on fait du coaching. La première, c'est connaissance de soi. Quelle est notre dynamique personnelle et qui vient s'incarner ou qui vient s'actualiser dans le travail? Alors, quels sont nos besoins psychologiques? Quelles sont nos façons de nous exprimer? Hein, on va parler de canal de communication. Ou quels sont les comportements types de stress que nous pouvons avoir lorsque nous n'arrivons pas à faire face à une situation qui nous met dans l'embarras. Que ce soit avec une personne, je m'entends pas avec une personne, ou je n'arrive pas à gérer mon équipe, l'entreprise me donne des objectifs, mais je sais pas forcément comment m'y prendre. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier chantier, hein, connaissance de soi pour regarder comment on fonctionne en période de difficulté et même en période de confort. Deuxième grand chantier, c'est ce que on appelle classiquement le renforcement de l'identité managériale du responsable. Alors, le renforcement managérial, c'est prendre conscience de comment est-ce que on anime une équipe, comment est-ce qu'on devient responsable ou les conséquences de devenir responsable. Est-ce que je suis directif ou est-ce que je suis plutôt délégatif ou est-ce que j'aime faire participer les gens ou lorsque les conversations au cours de réunion s'éternisent, comment je réagis? Bon, toutes ces choses-là, on s'en rend pas compte, mais on va réagir énormément comme on est dans la vie. Et donc le premier chantier qui est connaissance de soi nous permet de prendre conscience de bah, comment je réagis en groupe, comment est-ce que j'anime mon équipe ou des choses comme ça. Bon. Et donc, dans l'identité managériale, il y a la façon dont je communique aussi, la façon dont j'écoute, la façon dont je gère mes priorités, la façon dont j'accompagne mon équipe à grandir et à honorer le mandat qu'elle reçoit. Ben, toutes ces choses-là, en fait, il y a énormément de cartes du territoire qui existent. Et très souvent, ce que je constate, c'est que les managers font comme ils sentent et plus ou moins comme ils ont appris. Mais c'est pour eux relativement important d'avoir un vis-à-vis pour dire, bon, ben, j'ai fait comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Alors, très souvent, le coach ne tombe pas dans le panneau de est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire en disant oui ou non. C'est pas le rôle du coach. Mais beaucoup plus de faire travailler, par exemple, le manager sur, pour vous, c'est quoi un bon manager? Un manager qui réussit, il fait quoi? Comment il structure son temps? Comment est-ce que il gère l'entretien d'évaluation de fin d'année? Toutes ces choses qui, finalement, on a l'impression que ça tombe sous le sens, qu'on sait automatiquement sous prétexte qu'on est devenu manager, mais c'est pas si évident. Et donc, eh bien, les managers ont souvent besoin justement de, bon, j'appelle ça, renforcer leur identité managériale. Alors, est-ce qu'ils disposent aussi de représentation de l'organisation? Qu'est-ce que c'est une organisation? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont quelques notions, par exemple, de systémique, hein, ce qu'on appelle le fonctionnement d'un système? Est-ce qu'ils peuvent poser, entre guillemets, une analyse sur telle personne réagit comme ça, et est-ce qu'ils sont capables de dire, bon, bah, psychologiquement ou dans le comportement de la personne, je sais l'expliquer, mais est-ce qu'ils savent l'expliquer avec une autre théorie que du comportement ou que de la psychologie qu'on fait tous, hein? Mais est-ce qu'ils ont des outils, par exemple, de système, de théorie organisationnelle pour dire, ah, bah oui, je vois bien que là, cette transition, c'est pas très grave, c'est une transaction mineure, ou au contraire, c'est une transaction majeure, c'est quelque chose auquel il faut que je fasse très attention. Et toutes ces choses-là, j'allais dire, elles sont pas apprises. Or, on dispose d'énormément de cadres de référence, hein, pour traiter ça, que ce soit de l'analyse transactionnelle, de la théorie organisationnelle, c'est-à-dire l'analyse transactionnelle appliquée aux organisations, mais aussi, est-ce que, la personne a quelques, connaissance des règles de communication, ou est-ce qu'elle a connaissance d'outils tels que la programmation neurolinguistique pour comprendre l'importance de la sémantique, comment justement on peut apprendre à poser les questions à l'autre. Tous ces éléments-là, en fait, ils sont connus, mais ils sont souvent hors de l'entreprise. Et donc, dans le coaching, dans ce deuxième chantier, si tu veux, qui consiste à renforcer l'identité managériale, hein, de la personne, eh bien, le coach va pouvoir inoculer progressivement ce cadre de référence. Alors, quand on dit effectivement, le coaching vise à permettre à l'autre à trouver ses solutions lui-même, c'est vrai, mais il est certain que, il y a quand même un vocabulaire, un peu de théorie, un ensemble de représentations du réel professionnel qu'il est quand même bon de revisiter avec la personne. Il ne s'agit pas de lui inculquer, de faire de la formation, mais en même temps, lui donner des règles de communication, c'est quand même la base, quoi. Donc le coach, il n'est pas que là pour donner un espace pour que la personne trouve ses solutions elle-même, mais il est aussi là pour donner des cadres de référence pour que justement la personne agisse différemment parce qu'elle a une représentation différente. En systémique, on dit que le changement, il est absolument naturel. Il est naturel pour peu que la personne dispose de nouvelles représentations. Si nous ne nous positionnons pas en offrant justement des nouvelles cartes du territoire, eh bien, la personne risque de continuer à faire un peu plus de la même chose. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième grand chantier, renforcement de l'identité managériale. Le troisième grand chantier classiquement qu'on trouve dans le coaching, c'est maintenant comment je me projette. Comment je me projette dans ma vie professionnelle? Comment j'évolue? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce job? ou dans cette position dans l'entreprise? Comment je voudrais contribuer de façon spécifique? Voilà. Et c'est pour ça que, avec ces trois chantiers, on couvre à peu près tout, mais il va y avoir quand même des types de coaching qui sont relativement différents. On va dire que, par exemple, on peut faire du coaching de crise. La personne qu'il demande est un peu dans une séquence de stress assez intense. Elle perd un peu les pédales, elle sait plus très bien où donner de la tête, elle somatise, elle dort plus bien, elle commence à prendre des médicaments, elle en parle mais sans en parler. Enfin, on sent que ça va pas très bien. Et dans ces cas-là, la personne peut, dans l'entreprise, aller voir son manager ou le DRH en disant, écoutez, là j'ai vraiment de la difficulté. Et de fait, les entreprises sont de plus à plus habituées aux procédures de coaching. Donc, on peut dire, va voir un coach ou rencontre-en un et puis on verra si on contractualise. Et donc, dans le coaching de crise, l'enjeu, c'est véritablement de la préservation ou la protection des personnes. C'est-à-dire lui permettre de rétablir ce qu'on va appeler l'okayness, le fait d'être OK, ou le fait d'avoir un certain confort, quoi, pouvoir avoir à nouveau confiance en soi, pas psychoter quand on part au travail parce que tout d'un coup on va se retrouver devant une équipe qui vous en veut parce que vous avez mis en place une décision qui a été imposée par l'entreprise et que en tant que manager c'est votre boulot d'assumer ça et que vous l'assumez pas. Bon, donc ça c'est le coaching de crise. Un deuxième type de coaching qui est absolument très fréquent, c'est le coaching de performance. Alors, le coaching de performance, l'enjeu, c'est pas la protection des personnes, c'est l'amélioration de certains comportements ou de certaines attitudes de la part du manager. Alors, le coaching de performance, autrement dit, à la clé, il y a un contrat de changement. Il faut améliorer tel ou tel comportement, ou il faut faire un travail plus en profondeur, qui est, je voudrais travailler sur mes croyances, sur les valeurs qui m'habitent, de telle sorte que le changement qui est mis dans un coaching de performance soit plus durable. C'est-à-dire que si on fait un changement juste de comportement, on va aider finalement la personne à mieux comprendre ce qui arrive, mais à rentrer dans une logique de contrôle. C'est-à-dire, je vais essayer de mieux écouter, je vais essayer de mieux animer. Et souvent, c'est pas suffisant. Donc, ça demande un travail plus en profondeur, justement sur les croyances, sur les représentations de la personne. Alors, si on fait un coaching de performance de type comportement, on va appeler ça un changement de type 1. Ça, c'est une terminologie systémique. Et puis si on fait un coaching de performance plus en profondeur, qui aborde les valeurs, les croyances, les représentations, là on va parler d'un changement de type 2, hein, en systémique. Alors pour donner un ordre d'idée de la durée, un changement de type 1, globalement ça dure 3 mois, quoi. Tandis qu'un changement de type 2 en performance, ça va plutôt de l'ordre de 9 mois. Hein, sachant qu'on se voit une à deux fois par mois. Alors ensuite, il y a un troisième type de coaching après la crise de la performance, c'est le coaching de soutien. Le coaching de soutien, sa caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de contrat de changement. Et donc, la personne a juste besoin d'un vis-à-vis pour parler, pour élaborer sa parole, pour l'aider à faire une priorisation dans ce qu'elle fait, etc. Le coaching de soutien, c'est une main courante. Et très souvent, après un coaching de performance, ce qu'on fait souvent, c'est on passe à un coaching de soutien, c'est-à-dire que la personne dispose d'un certain nombre d'un capital d'heures de coaching et elle les consomme quand elle veut. Alors que dans le coaching de performance, on a un calendrier assez précis, on se voit une fois tous les 15 jours. Le coaching de soutien, c'est plutôt la personne qui téléphone au coach en disant j'ai envie de venir te voir, je voudrais retravailler ça, etc. Voilà. Donc, coaching de soutien, c'est souvent à la suite d'un coaching de performance ou simplement de soutien suite à une difficulté qui est plus ou moins résolue et pas nécessairement en lien avec l'entreprise. Mais dans ces cas-là, le coaching de soutien se fait en dehors de l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui est le tiers payant. Et puis, on va avoir aussi des coachings, un quatrième type de coaching, c'est plutôt le coaching de sens, de carrière, c'est-à-dire c'est des coachings de gens quoi, entre 45 et 55 ans et qui se disent bon, qu'est-ce que je décide de faire de ma vie? Comment je réoriente ma vie? Bon, j'ai été expert, j'ai été manager et je voudrais vraiment changer, donner une dimension plus existentielle à ma vie professionnelle. Donc, on parle d'un coaching de carrière et de sens. Il peut y avoir des coachings de carrière aussi à 35 ou 40 ans, hein, où la personne dit, bah, je voudrais me réorienter dans une autre carrière. Mais dans ces cas-là, c'est pas forcément l'entreprise qui est, dans ces cas-là, le tiers payant. Voilà les différents types de coaching. Bon, ça ne dit pas tout, hein, parce qu'après, il y a tellement de spécificités. Après, on va déterminer, j'allais dire, ce qu'on va traiter dans le coaching au cours du premier entretien qu'on va avoir avec la personne, où la personne va dire, bon, ben voilà, je viens vous voir parce que je me trouve dans une situation professionnelle ou personnelle qui est un peu délicate et je voudrais travailler tel ou tel aspect. Et donc, en fonction de ce premier entretien, ce que fait le coach, c'est qu'il rédige une proposition commerciale qui présente le contexte de la demande, qui analyse la demande, qui dit les chantiers qui vont être travaillés. Il explique aussi éventuellement le cadre de référence qu'il va utiliser pour accompagner. Donc, quels sont les outils? Il peut y avoir des outils psychométriques qui permettent à la personne de mieux se connaître. Moi, personnellement, j'utilise principalement l'outil Process Comm Management de Tébi Keller. Mais il y en a bien d'autres. Hein. Il y a le MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Il y a TalentQ. Il y a DISC. Enfin, il y en a une paparde, je dirais, d'outils psychométriques. Hein. Je n'en cite que quelques-uns, et fort heureusement, le coach n'a pas besoin d'en connaître plusieurs, il en suffit d'un. Voilà.
D'accord. Oui, merci, merci beaucoup, Jérôme, pour ce panorama de tous les types de coaching. Alors justement, si un de nos lecteurs est manager dans une entreprise ou sent qu'il a besoin de faire appel à un coach, comment il s'y prend? Comment il peut choisir un coach?
Alors, s'il est dans une grande entreprise, très souvent les systèmes RH, la direction des ressources humaines, disposent soit d'un réseau de coach externe, soit au mieux d'un réseau de coach interne. Alors, s'il y a un réseau de coach interne, ça prouve que l'entreprise a investi auprès d'un certain nombre de personnes dans leur entreprise, pour les former et pour que, de fait, elles puissent accompagner en étant internes. Donc ça, c'est le reflet d'une politique très active au niveau des ressources humaines, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Alors, si c'est pas le cas, eh bien souvent, les RH disposent quand même d'un réseau de coachs externes. C'est-à-dire que ils ont fait passer à des coachs du marché. Ils ont fait passer des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens de référencement, de telle sorte qu'ils soient reconnus avec un certain degré de professionnalisme, etc. Alors, s'il y a effectivement un réseau de coachs externes, eh bien, la RH ou le manager direct responsable du demandeur donne des coordonnées de un, deux ou trois coachs. Généralement, c'est deux ou trois. C'est jamais un uniquement, mais c'est deux ou trois. Et puis, la personne prend son téléphone et téléphone au coach. Souvent aussi, c'est la RH qui téléphone au coach en disant, bon, j'ai donné vos coordonnées à un tel, il va vous appeler. On reçoit cet appel. Ce qui se passe, c'est que le coach va généralement sur le lieu de l'entreprise et a un premier entretien qui va durer 1 heure à peu près ou 1 heure et demie. Pour un exposé de la part de la personne, alors, bon, quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et puis après, une fois que les choses sont entre guillemets entérinées, eh bien le coaching commence. Alors typiquement, ça va durer combien de temps? J'ai dit tout à l'heure que le coaching de performance était 3 mois si c'est un changement de type 1, c'était plutôt 9 mois si c'est un changement de type 2. Un coaching de crise, ça va durer combien de temps? Ben, ça va durer au maximum 1 mois. Un coaching de soutien, ça peut aller jusqu'à 18 mois. Un coaching de carrière, là, ça va dépendre de l'échéance de la personne. Mais en tout état de cause, moi, je sais que typiquement, ça va de 15 à 30 heures. Un coaching 15 heures, c'est vraiment du coaching de performance où on va faire 5 séances de 3 heures ou 6 séances de 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Pour moi, idéalement, enfin, les coachings que je fais des séances de 3 heures et j'essaye de toujours de proposer un contrat de 24 heures parce que j'aime bien travailler sur ces trois chantiers, connaissance de soi, renforcement de l'identité managériale et la façon dont la personne se projette. Ça, c'est un peu générique, hein. Après, c'est à chaque fois spécifique. Et puis, donc voilà pour la durée. Alors, il y a des coachs qui préfèrent avoir 1 heure à 1 heure et demie, d'autres 2 heures. Moi, j'aime bien travailler 3 heures parce qu'on fait beaucoup de choses. Du coup, on peut à la fois parler de l'ici et maintenant, on peut faire un travail de fond par rapport au contrat qui a été signé, puis on peut éventuellement préparer une réunion, une difficulté, puis aborder la façon dont la personne va se projeter dans l'avenir. Voilà, si j'ai pas 3 heures, je peux pas faire tout ça, quoi. Et finalement, 3 heures, ça passe très très vite. Ça passe très vite et la personne peut se lâcher, elle devient relativement naturelle. Si c'est vraiment trop trop court, ben on reste dans une logique très très performante, quoi. Et c'est pas forcément très efficace. Voilà.
D'accord. Et si je suis manager, je vois plusieurs coachs,
Oui.
qu'est-ce qui fait que je vais choisir tel ou tel coach? Qu'est-ce qu'il faut que
Alors,
je regarde pour...
oui. Ça, d'abord, si effectivement la personne fait appel à un réseau de coach identifié, le premier point, c'est la personne à qui je fais appel est-elle compétente? Mais si la personne passe par un réseau identifié de coach externe, l'entreprise a fait le nécessaire pour identifier des coachs compétents. Donc, c'est pas un problème. Ce qu'on appelle un coach compétent, c'est un coach qui est formé, c'est un coach qui est supervisé, c'est un coach qui a une expérience professionnelle dans l'entreprise, etc. Donc, et puis qui fait vraiment un travail sur lui-même, de thérapie, pour être vraiment disponible, etc. Et pas être trop, trop dans la projection ou voilà, être professionnel. Donc, la première chose, c'est est-ce que la personne à qui je m'adresse est professionnelle? Bon. Ça, j'allais dire, c'est facile à résoudre. La deuxième chose qui va être importante, c'est est-ce que je me sens bien avec ce coach-là, quoi? Parce que y a une histoire de fit, de relation. Il faut que la personne se sente pas sur le grill chaque fois qu'elle va aller voir son coach, comme on peut se sentir sur le grill chaque fois qu'on va chez le dentiste et qu'on a des problèmes de dents. Non. Donc la deuxième chose, c'est est-ce que j'ai un bon fit? La troisième chose, c'est de regarder si la personne qui va m'accompagner, eh ben j'ai le sentiment qu'elle va pouvoir m'aider. Donc, c'est important d'avoir ces points-là. Et puis, il y a après, est-ce que la personne qui vous convient, dans laquelle vous pouvez vous projeter, enfin, toutes ces choses-là qui sont tout ce qui est plus naturel, quoi, hein, et qui rentre, j'allais dire, dans le fit, mais de façon objective, vous pouvez regarder son parcours, si effectivement c'est une personne qui a passé sa vie à travailler dans un hôpital, qui est médecin, etc., et vous êtes un informaticien, c'est formidable un médecin, mais vous pouvez dire, ben, j'ai pas envie d'un coach médecin, j'ai envie d'un coach informaticien, par exemple. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est est-ce que je peux me reconnaître un petit peu, quoi? Là-dedans. Ou au contraire, à contrario, ça peut être exactement le contraire. Moi, je veux quelqu'un qui soit complètement différent de moi. Voilà. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut voir. Et puis, il y a la proposition commerciale. Qu'est-ce que la personne vous propose de traiter? Est-ce que ça vous va, quoi? Voilà.
Ouais. D'accord, oui. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte
Oui.
pour choisir son coach.
Si jamais, effectivement, il n'y avait pas de coach identifié dans l'entreprise et que la personne veut se chercher un coach, ben là, elle a tout à fait avantage à aller sur un syndicat de coach professionnel pour faire une sélection. On va trouver toutes les associations de coach professionnels On peut prendre l'Association européenne de coaching, le MCC, Tokyo Open Mentoring and Coaching Council. On peut prendre International Coaching Federation, on peut prendre ou l'Institut Maïotis, par exemple, ce que j'ai fondé moi, et qui regroupe des professionnels de l'accompagnement, aussi bien des thérapeutes que des coachs. Ça, ce sont des gens qui sont des professionnels, quoi. Ils gagnent leur vie à faire ça. Donc ça, c'est
D'accord.
quand même garant d'un certain professionnalisme si la personne ne peut pas faire appel à un coach qui est identifié par l'entreprise elle-même.
D'accord. Alors justement là, tu viens d'aborder le domaine de la thérapie et
Oui.
tu en parlais aussi au début de l'interview. C'est quoi la différence entre un coaching et la thérapie?
Alors, les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est tellement nuancé que toute explication est un peu caricaturale. Mais je vais quand même essayer de distinguer les choses. On va dire que si on prend comme premier paramètre ou critère la notion du temps. La thérapie va plutôt se tourner vers le passé, tandis que le coaching va plutôt se tourner vers le présent et vers l'avenir. Là, c'est très caricatural, parce qu'il y a des thérapies qui se projettent aussi, etc. Et puis, le travail du coaching peut amener justement à revisiter des expériences professionnelles qui ont été un peu douloureuses, et ne pas le faire en coaching sous prétexte que ce serait un retour en arrière, ce serait trop simpliste, quoi. Bon. Le deuxième critère, si on regarde les domaines traités, on va dire que le coaching, c'est plutôt la vie professionnelle et relationnelle au travail qui est traitée, alors que en thérapie, c'est plutôt la vie personnelle et familiale, la psychologie, voire ce qu'on appelle dans la terminologie jungienne la psychologie des profondeurs. Maintenant, si on regarde la polarité de la dynamique et des thèmes de changement. Typiquement, le coaching en entreprise, l'histoire professionnelle de la personne. De l'autre côté, on va avoir plutôt un travail qu'on va appeler régressif, du travail sur les émotions, alors qu'en coaching d'entreprise, on va surtout apprendre à identifier ces émotions, à les exprimer et puis à les utiliser dans une situation professionnelle. On va dire qu'en coaching, on traite plutôt des projets professionnels, alors qu'en thérapie, on traite plutôt des projets de vie. Dans le coaching, on va traiter des relations entre les hommes, les femmes, au travail. J'allais dire, en thérapie, on va traiter de la sexualité. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes thèmes.
D'accord. Et alors on approche de la fin de l'interview.
Oui.
Et alors là on a vu la différence entre le coaching et la thérapie. Et maintenant, quelle est la différence entre un coach et un consultant?
Ah, oui. Souvent le coach est consultant ou souvent le coach a été thérapeute. Il vient de la droite ou il vient de la gauche. Ce que je veux dire par là, c'est les niveaux de profondeur. Le consultant ou le consulting, c'est la pratique dans laquelle un client fait appel à l'expertise identifiée d'une personne dans un domaine particulier. Et il arrive, entre guillemets, avec une solution et il adapte sa solution à la problématique du client. Mais le choix se fait essentiellement fondé sur l'expertise de contenu. Alors que l'expertise du coach, c'est une expertise de processus. C'est-à-dire, il sait poser des questions, il est beaucoup plus à la rencontre de la sociologie, de la psychologie, de la théorie des organisations, alors qu'un consultant, il est soit, par exemple, consultant en système d'information, ou consultant en stratégie, ou consultant en organisation, ou consultant en communication. Le consultant n'a pas forcément une expertise de la relation humaine, de la relation de l'homme à lui-même, l'homme au sens générique du terme, hein, avec un H majuscule. Ça, c'est pas vraiment une expertise que les consultants vont avoir d'entrée de jeu. Ils vont petit à petit l'acquérir, hein, par l'expérience. Mais en tout cas, les consultants, ils n'ont pas généralement fait le choix d'un travail d'ordre thérapeutique, hein, alors que le coach, lui, il y est tenu. Le consultant ne va pas nécessairement s'intéresser aux difficultés relationnelles dans l'entreprise et à l'identité managériale, il va beaucoup plus s'intéresser à ce qui est autour du manager. Donc son poste, donc les outils dont il dispose pour travailler, la stratégie de l'organisation. Et on va dire que d'une façon générale, pour accompagner une entreprise dans des changements, ça a un coût. Je dis ça parce que coût en anglais, ça se dit cost, et c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir comment on peut accompagner le changement. COST. Alors le C, c'est le changement par la culture. On va faire un changement culturel et ça, c'est les coachs qui font ça. O, ça va être, on va plutôt faire un changement centré sur les objectifs. Et donc ça, c'est souvent de la stratégie, hein, et c'est plutôt des consultants qui disent, bon, bah, on va orienter la stratégie d'entreprise comme ça et le changement va se faire. Le S, c'est, on va faire un changement par les structures. Allez, on réorganise tout et les gens s'adapteront. Et puis, le dernier type de changement qu'il peut y avoir, c'est par la technologie, hein, le T de technologie. Et donc, c'est typiquement des consultants en système d'information. Donc, on pourrait dire que le consultant, il a une expertise de contenu en dehors de l'homme et il l'applique, il la fait appliquer, tandis que le coach, lui, va plus s'intéresser à l'homme et il a une expertise, non pas de contenu, mais beaucoup plus de processus. Voilà.
D'accord, merci. L'interview touche à sa fin.
Oui.
Merci Jérôme pour le temps que tu nous as consacré, pour les réponses précises et développées. J'espère que ça a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur le coaching, l'envie, pourquoi pas, de faire appel à un coach. En tout cas, merci Jérôme pour ton attention.
C'est moi qui te remercie, c'était assez plaisant. Et juste un mot de conclusion. On voit quand même que le coaching, c'est très technique et on est au centre de la complexité à la fois de l'homme dans l'organisation, de l'homme pris dans les équipes, dans les réseaux. Et pour moi, le mot coach, même s'il est galvaudé, c'est un mot, entre guillemets, venu d'ailleurs, qui parle d'un métier qui est à la croisée des chemins, à la fois de l'humain, de l'organisation, des équipes, du sens, de l'économie, de la sociologie, etc. Pour moi, c'est un métier passionnant et en même temps, je pense que compte tenu de la complexité dans laquelle les gens vivent, eh bien, faire appel à un coach, ça n'est pas faire aveu de faiblesse, c'est juste, à mon avis, un acte de courage qui dit, bah, j'aimerais bien regarder comment ça marche avec quelqu'un. Avec entre guillemets, une espérance et une certaine foi que la relation à l'autre peut aider à clarifier les situations dans lesquelles nous nous trouvons tous. Voilà. Merci en tout cas.
Oui, voilà. J'ai oublié de
www.maiotis.eu.
le rappeler, tu m'as devancé.
Voilà.
Voilà, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur toi, sur l'Institut Maïotis, donc à www.maïotis.eu. Eh bien, merci Jérôme et à
Merci
bientôt.
à toi Rémi et puis bon cheminement.
Merci, au
Au
revoir.
revoir.